tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 septembre 2014, chez Robin Dorcil et Morgane Guériec à Washington. Bonsoir Morgane.
Bonsoir chez Robin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, en Guinée, affrontements et peut-être des morts dans le Sud-Est lors d'une séance de sensibilisation.
En Centrafrique, les mouvements armés et signataires des accords de Brazzaville lancent un mouvement pour la paix et la cohésion sociale.
Nous avons compris qu'il fallait se mettre ensemble pour travailler afin de ramener la paix dans notre pays, puisque c'est nous qui sommes les principaux acteurs.
En Écosse, un référendum sur l'indépendance menace une union politique vieille de 3 siècles.
Crise ukrainienne, le président Petro Poroshenko est à Washington pour une rencontre avec Barack Obama et un discours au Congrès américain.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. D'abord le journal.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion d'urgence cet après-midi sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Margaret Chan, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présenteront à cette occasion un plan d'action international contre la maladie. Michel Joseph.
La maladie à virus Ebola n'est pas seulement une crise sanitaire. Elle a des conséquences humanitaires, économiques et sociales graves qui pourraient se propager au-delà des pays touchés. Le secrétaire général et les Nations Unies sont déterminés à agir plus vite et répondre à ce défi qui teste la coopération et la solidarité internationale, a fait savoir le porte-parole de M. Ban dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU s'est félicité de l'annonce faite mardi par les États-Unis d'une série de mesures de soutien à la lutte mondiale contre la maladie à virus Ebola qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il a appelé la communauté internationale à être aussi audacieuse et courageuse dans sa réponse que ceux qui sont sur la ligne de front contre cette maladie. Le président américain Barack Obama a annoncé l'envoi de quelque 3000 militaires américains en Afrique de l'Ouest, en concentrant particulièrement ses efforts sur le Libéria, l'un des 3 pays touchés par l'épidémie avec la Guinée et la Sierra Leone. Ce pays s'apprête à confiner pendant 3 jours l'ensemble des 6 millions de Sierra Leonais pour une campagne porte-à-porte contre l'Ebola.
Au moins 5 personnes étaient portées manquantes après des heurts qui ont fait 21 blessés dans le sud-est de la Guinée lors d'une opération de sensibilisation à l'épidémie d'Ebola. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse, citant la gendarmerie locale. Des informations de sources hospitalières à Nzérékoré faisaient état de morts. Le gouvernement a envoyé mercredi soir une délégation conduite par le ministre de la Santé, le colonel Rémi Lama, pour ramener le calme dans la zone.
Affrontement entre policiers et militaires en République démocratique du Congo. L'AFP fait état d'au moins 2 morts dans les rangs de la police. Les combats se sont produits la nuit passée dans le Nord Kivu, dans l'est du pays. Un responsable militaire cité par l'agence France-Presse affirme que les militaires ont surpris des policiers qui se livraient à des extorsions à Kichanga. C'est ce qui aurait provoqué l'accrochage. L'administrateur adjoint du territoire de Masisi, qui a confirmé le bilan, accuse la police d'avoir tiré dans la ville hier soir. Toujours selon la même source, les policiers se sont ensuite livrés à des pillages, poussant la population à fuir, notamment vers la mission de l'ONU. Nous avons appelé les autorités de la police et de l'armée pour faire cesser les pillages, a ajouté l'officiel.
Boko Haram contrôle au moins 25 villes dans le nord-est du Nigeria, c'est ce qu'affirme l'évêque catholique de cette région. Inquiet de la détérioration rapide de la situation sécuritaire, l'évêque Olive Daché demande l'aide de la communauté internationale. Rappelant que l'organisation islamiste revendique la création d'un califat dans cette région. Nous avons presque perdu cette bataille parce que c'est hors de contrôle, estime l'évêque.
En République centrafricaine, les mouvements armés signataires de l'accord de Brazzaville créent une nouvelle plateforme dénommée G7 Siriri. Celle-ci a pour mission principale de promouvoir l'apaisement, la paix et la cohésion sociale dans le pays. Le point avec Félix Yepazizambrou.
Le G7 Siriri regroupe les 7 forces politico-militaires, à savoir l'ex-coalition Séléka, le mouvement anti-Balaka, le MLCJ, la RJ, l'UFR, l'UFR fondamental et le FDPC. Selon Dr. Dotrouvé Eloge Koï, son rapporteur général, L'objectif principal de la plateforme est de promouvoir l'apaisement, la paix, la cohésion sociale et la sécurité.
Comme on le dit souvent, il y a un moment pour faire la guerre et un moment pour faire la paix. Nous avons accepté d'aller à Brazzaville. Nous avons signé à Brazzaville un accord de cessation des hostilités. Nous sommes revenus et nous avons compris qu'il fallait se mettre ensemble pour travailler afin de ramener, n'est-ce pas, la paix dans notre pays. Puisque c'est nous qui sommes les principaux acteurs. Il n'appartient pas aux étrangers de venir ramener la paix dans notre pays. Ils peuvent certes venir nous aider, mais ils ne pourront pas faire mieux que nous. Voilà pourquoi nous avons décidé de joindre nos mains et de travailler ensemble pour ramener la paix dans notre cher pays.
Le G7 Siriri se propose déjà de mener des sensibilisations auprès de ses membres à Bangui et à l'intérieur du pays. Il se dit aussi disposé à travailler en étroite collaboration avec la nouvelle forme de maintien de la paix de l'ONU, MINUSCA.
En Libye, le Parlement a rejeté le nouveau gouvernement d'Abdallah Al-Thani, Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Les députés souhaitent qu'il forme un nouveau gouvernement de crise plus restreint. C'est dans ce contexte que le Parlement libyen a adopté une loi antiterroriste prévoyant de lourdes peines de prison pour les auteurs d'actes terroristes. Il faut dire que la Libye est devenue le fief de groupes djihadistes armés. Le texte prévoit la perpétuité pour quiconque forme ou dirige une organisation terroriste et sanctionne l'appartenance à un tel groupe par 10 ans de prison au moins.
Et le Maroc aussi renforce sa législation antiterroriste. Le mouvement a adopté un projet de loi sur la lutte contre le djihadisme en Syrie et en Irak, notamment dans les rangs de l'organisation de l'État islamique. Le projet de loi a été adopté en Conseil de gouvernement dans le but de protéger nos jeunes et de les empêcher de se rendre dans des zones de guerre, indique le ministre marocain de la Justice. Toute personne qui cherche à rejoindre ces zones dangereuses sera poursuivie, a-t-il souligné.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Australie a lancé une gigantesque opération antiterrorisme dans les maisons et entreprises à Sydney et Brisbane. 800 policiers lourdement armés ont pris part au raid, au cours desquels au moins 15 personnes ont été arrêtées. Nathalie Barge.
Le Premier ministre Tony Abbott a dit que ces raids antiterroristes ont été menés suite à la déclaration d'un militant de l'État islamique ordonnant des crimes de démonstration en Australie. Les médias ont rapporté que les conspirateurs avaient prévu d'enlever des personnes au hasard à Sydney, de les envelopper dans un drapeau du groupe terroriste et de filmer leur décapitation. Quelques 800 policiers ont arrêté plusieurs suspects, dont un certain Omar Jean Azari de Sydney, un jeune de 22 ans. Qui a été inculpé pour complot en vue de perpétrer une attaque terroriste sur le sol australien. Les procureurs ont déclaré au tribunal que le délit présumé était clairement destiné à choquer, horrifier et terrifier la communauté. Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Scipione, a déclaré que les raids sont un succès.
We have in fact disrupted that particular attack.
Et que la police continuera à travailler sans relâche pour empêcher de telles attaques. La semaine dernière, Canberra a relevé son niveau d'alerte en raison des préoccupations concernant les Australiens retournant au pays après avoir combattu avec les extrémistes en Syrie et en Irak.
Les Écossais se sont rendus aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'un scrutin référendaire historique sur l'indépendance. Plus de 4 200 000 personnes doivent dire oui ou non à l'association avec la Grande-Bretagne, une union vieille de 307 ans. Les 2600 bureaux de vote ferment à 21h, temps universel, nous dit Jean-Roger Billon.
Le Premier ministre écossais Alex Salmond, fer de lance de la campagne pour le oui, a lancé un appel passionné à la fin de la dernière journée de la campagne. Il a demandé à ses partisans de saisir cette chance unique pour prendre en main leur propre avenir.
This opportunity is truly historic.
Cette occasion est vraiment historique. Il y a des hommes et des femmes partout en Écosse qui, se regardant dans le miroir, savent que le moment est venu. C'est notre choix, notre chance et notre temps.
En face, il y a ceux qui veulent que l'Écosse reste au sein de la Grande-Bretagne. Ils redoutent le changement. Alistair Darling, homme politique et chef de file du non, a averti les électeurs à Glasgow que leur choix va avoir un grand impact sur l'avenir de l'Écosse pour toujours.
Let's be confident that a vote to say no is a vote for a stronger Scotland.
Restons confiants qu'un vote pour le non est un vote pour une Écosse plus forte. Un vote pour le non est pour une Écosse sécurisée. Un vote pour le non est pour nos enfants et leurs enfants et les générations à venir. Oui, nous aimons l'Écosse, c'est pourquoi nous allons voter non.
Comme on le voit, les enjeux sont de taille pour une union politique en place depuis 1707.
Toujours dans l'actualité internationale, le président ukrainien Petro Poroshenko est à Washington pour une rencontre avec le président Barack Obama et une allocution devant le Congrès. Le point avec Lola Akomachri.
Prenant la parole ce matin au Capitole, M. Poroshenko a réclamé l'aide militaire, politique et économique de Washington pour faire face à la menace russe. L'armée ukrainienne, imaginez ces jeunes, sous-équipés et souvent pas appréciés à leur juste valeur par la communauté mondiale, sont les derniers remparts entre la réalité d'une coexistence pacifique et le cauchemar d'un retour au siècle passé, à la guerre froide, a dit le président ukrainien. M. Poroshenko, qui a décrété un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine le 5 septembre dernier, devrait encourager le gouvernement américain à lui fournir une assistance militaire supérieure aux 70 millions de dollars promis par Washington il y a quelques semaines. Il exhorte les États-Unis à accorder à l'Ukraine un statut spécial de sécurité et de défense en tant qu'État non membre de l'OTAN. Qualifiant l'annexion de la Crimée par la Russie d'un des actes les plus cyniques de traîtrise dans l'histoire moderne, le dirigeant ukrainien a dit que l'agression contre son pays est une menace contre la sécurité mondiale. Selon les sources officielles à Kiev, l'insécurité dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 3000 morts.
Le Congrès américain a donné son appui à un plan du président Barack Obama d'armer et entraîner l'opposition dite « modérée » en Syrie. Le vote de la Chambre des représentants mercredi, suivi de celui qui aura lieu ce soir au Sénat, intervient malgré les préoccupations de nombreux législateurs. Des démocrates se disent contre une nouvelle guerre au Moyen-Orient et certains républicains estiment que la stratégie d'Obama pour vaincre l'État islamique est insuffisante. Pendant ce temps, le président français François Hollande a déclaré que son pays est prêt à lancer des frappes aériennes contre les djihadistes en Irak, mais non en Syrie.
Sur le terrain, les combattants de l'État islamique, appuyés par des chars, ont conquis au cours des dernières 24 heures 16 villages kurdes dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, c'est une avancée très importante pour eux. Les civils kurdes ont été vus fuyant leur village par peur d'être massacrés par les djihadistes, apprend-on de même source. Nawaf Khalil, un porte-parole du puissant parti de l'Union démocratique du Kurdistan en Syrie, a déclaré que les combattants kurdes se sont retirés ou ont perdu jusqu'à 20 villages de la région de Kobani et ils ont évacué la population civile. En plus de perpétrer des massacres, ajoute le porte-parole, l'État islamique a kidnappé des femmes dans les zones nouvellement prises, dont 28 membres d'une même famille. Aucune vérification indépendante de cette information jusqu'à présent. Voilà pour le journal. Il est bientôt 18h43 en temps universel, 14h43 ici à Washington. Chérubin Dorsil et Morgane Guériac en votre compagnie. Restez branchés pour les principaux dossiers de la journée.
Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord Mali achoppent à Alger sur le statut politique de ce que les groupes armés appellent l'Azawad.
Et bien sûr, c'est le point que l'on va aborder après notre segment sur l'Ebola. L'Ebola qui inquiète en Guinée, on s'inquiète de l'impact économique de la maladie dans le pays. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Je vais à Dakar pour prendre mes marchandises, mes... Depuis le 6, je devais partir. Les habits de fête que je voulais aller prendre pour les hommes, cette fois-ci-là, je n'ai rien gagné.
Assise devant sa boutique presque vide, Binta ne souhaite qu'une chose, la rouverture des frontières.
Qu'ils prennent leurs précautions, les gens qui voyagent, pour voir s'ils ne sont pas malades, ceux qui sont malades, les laisser sortir, aller prendre leurs marchandises et venir vendre. Ça va nous faire plaisir, comme, franchement. Tout est fini. Et c'est là, stand-by.
D'autres Guinéens appellent vivement la reprise du trafic entre la Guinée et ses voisins. Mamadou est chauffeur de taxi.
Avant, quand le chauffeur somme, c'est s'il gagne une voiture à conduire, il gagne quelque chose pour que le madame prépare à la maison. Actuellement, nous, les propriétaires de la voiture, on ne gagne pas même à manger. Vous voyez, deux chauffeurs ou trois chauffeurs, ils partagent un demi-franc de bouillie. C'est pas bon pour nous.
Les Guinéens ne sont pas les seuls à souffrir de la situation. Aké Sierra Leone gère une boutique de chaussures. Cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas voyagé.
Toutes choses que je vends ici, aller là, sauf c'est la marchandise que j'ai gagnée ici, la Guinée. Avant, j'ai fait commande Canada, États-Unis,
Sierra Leone, la moment là, vous ne faites pas, vous ne rentrez pas en marchandise. À cause de l'affaire de Chouque Ibola.
À quelques semaines de la Tabaski, une fête musulmane, c'est l'inquiétude chez de nombreux commerçants à cause de la fermeture des frontières. Conakry, Zakaria Kamara, pour La Voix de l'Amérique.
Washington Forum consacré ce jeudi à la situation en Centrafrique. Arrivée des casques bleus, nouveau Premier ministre, report probable des élections. La transition peut-elle encore être sauvée dans le pays? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Ils seront lus en direct ce jeudi 19h, temps universel pendant l'émission. La Centrafrique en débat, c'est ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord Mali achoppent à Alger sur le statut politique de ce que les groupes armés appellent l'Azawad. Ils veulent une large autonomie fédéraliste, mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Moussa Agh Atahr, le porte-parole du MNLA, a fait un point de presse sur ce blocage. Reportage de Zoumana Wonogo au Burkina Faso.
C'est dans un hôtel au centre-ville de Ouagadougou, donc loin d'Alger, que le porte-parole du MNLA a convié la presse. Et en plantant le décor des négociations entamées depuis le début de ce mois, il y a comme un hiatus. Écoutons le porte-parole Moussa Agh Atahr.
Notre aspiration, c'est à travers ces discussions politiques, nous parvenions à un statut politique qui nous permette de garder notre drapeau, qui nous permette d'avoir notre assemblée constituante locale, qui nous permette d'avoir notre gouvernement local, qui nous permettent d'avoir notre administration gérée par les populations autochtones, qui nous permettent d'avoir notre sécurité gérée par les forces armées de sécurité de l'Azawad. À notre grande surprise, la partie gouvernementale est arrivée exactement avec le sens inverse, c'est-à-dire commencer par travailler autour de commissions thématiques, notamment la commission thématique institutionnelle et politique, la commission thématique développement, la commission thématique sécurité et la commission thématique réconciliation.
Comment comprendre alors l'engagement pris par les groupes armés dans l'accord de Ouagadougou à respecter l'unicité et la laïcité du Mali à côté de cette volonté fédéraliste? Suivons la réponse de Moussa Agh Atahr.
L'ensemble des mouvements à Alger se sont mis d'accord et sont unanimes sur la nécessité d'arriver à un fédéralisme d'État avec le gouvernement du Mali pour les régions de l'Azawad. Ce statut n'est pas contraire à l'intégrité territoriale du Mali. On peut bel et bien donner une autonomie large ou un fédéralisme aux régions de l'Azawad sans que l'intégrité territoriale ni l'unicité du Mali n'en souffrent.
Les choses ne vont pas comme sur des roulettes dans ces négociations intermaliennes. C'est peu dire, mais rassure le colonel Agamer Agh Al-Husseini, un des chefs militaires du MNLA, l'option de la guerre doit être proscrite. Suivant.
Mali et les mouvements, ils ont essayé en vain l'option des guerres. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé la sortie à ces problèmes. Depuis 1963 jusqu'à nos jours, il n'y a que la guerre chaque 10 ans, chaque 5 ans à cause de ces problèmes. Donc aujourd'hui, Mali a essayé, les mouvements, ils ont essayé qu'il faut négocier, forcément une négociation. Il faut négocier, il faut débattre, il faut voir une solution négociée à ces problèmes. Même si c'est dur.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Bien que le Nigeria interdise la torture et les autres mauvais traitements dans sa constitution et que le pays ait ratifié divers traités internationaux prohibant cette pratique, les autorités continuent de fermer leurs yeux sur la torture et ne l'ont pas érigée en infraction dans le droit national, Morgane.
Telles sont les accusations lancées par l'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, dans un nouveau rapport publié aujourd'hui. Pour plus de précisions, Camille Grosdidier a joint à Dakar le directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Steve Cockburn.
D'abord, la torture se fait dans les endroits secrets pour punir les détenus, extraire les aveux ou extorquer de l'argent. Et ces méthodes incluent, parmi d'autres, l'arrachage de dents et d'ongles, les décharges électriques, l'étranglement, la torture à l'eau et la suspension par le pied. Et très souvent, les détenus sont régulièrement battus avec les coups de fouet, des bâtons, des câbles et d'autres choses.
La corruption est-elle un facteur dans ce recours à la torture?
La corruption présente parmi les forces de sécurité, c'est un facteur très important dans le recours à la torture. Beaucoup de victimes nous ont dit que la police utilise la torture pour extorquer l'argent, par exemple, après avoir accusé les détenus de vol à l'usage d'armes. Ça figure aussi dans l'impunité qui existe autour de la pratique de torture. Malgré des plaintes par les victimes, il y a peu d'enquêtes sur les cas de torture et la compensation est extrêmement rare. Et la corruption est un des facteurs qui contribue à ça.
Alors, pourquoi les forces de l'ordre bénéficient-elles d'une telle impunité?
Bon, il y a plusieurs raisons. On sait que la corruption est un climat d'impunité dans les forces de sécurité plus généralisées. Les conditions de détention dans les endroits secrets et sans accès à l'avocat, ça facilite la pratique des torture. Il y a aussi un manque de volonté par le système judiciaire de prendre en sérieux les accusations de torture dans les tribunaux. Souvent, les accusations de torture sont traitées par les enquêtes policières et militaires à long terme, qui n'assurent ni l'indépendance, ni la transparence, ni la rigueur nécessaire. Et cette approche est à l'encontre de la Convention de torture, dont le Nigeria fait partie.
Mais quelles sont les carences du système judiciaire qui facilitent ce recours à la torture?
Il y a plusieurs carences dans le système judiciaire qui facilitent la torture. Il y a d'abord le fait que les garanties dans la loi nigérienne ne sont pas mises en œuvre. Une détenue nigérienne doit avoir l'information sur son arrestation, avoir accès à un avocat, de pouvoir contacter sa famille. Mais en réalité, ces droits ne sont pas réalisés. Les détenus sont dans des endroits secrets, sans accès à l'avocat et sans pouvoir contacter les familles. Normalement, ça peut protéger les victimes de torture. Il y a aussi un manque de volonté d'ouvrir et poursuivre les accusations de torture avec les enquêtes indépendantes, rigoureuses. Et aussi, il y a un manque législatif. Depuis 2 ans, il y a un texte de loi pour criminaliser les tortures qui est en attente d'examen. Et c'est essentiel que le gouvernement nigérien adopte cette loi et poursuit les agents de torture en justice.
Voilà, c'était Steve Cockburn, directeur général d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire. 3 ans après la fin de la guerre civile, Abidjan, la capitale économique, semble avoir retrouvé ses marques. Les maquis sont toujours engorgés, même si la Gouti n'est plus servie pour cause d'Ebola. Tous les soirs, coupés décalés, zouglou, hip-hop et rap constituent les fonds sonores dans les bars et restaurants de cette ville très cosmopolite. Une visite nocturne, guidée par notre envoyé spécial Idriss Fall.
Yalusha Vivien, ma chanteuse collaboratrice est Mélissa La Diva.
Tout ce que j'entends, c'est du coupé décalé, du zouglou, du hip-hop et du rap. Le genre que vous faites, c'est quoi d'abord?
Nous faisons plutôt de la variété. Il faut contenter tout le monde. De la soul music, du jazz, musique d'ambiance, zaïko, coupé décalé aussi, on fait du tout en fait.
Et vous chantez dans toutes les langues?
Ouais, nous sommes chanteurs interprètes. Du coup, on est obligé de chanter dans toutes les langues. En anglais, en espagnol, en italien et puis dans toutes les langues vernaculaires ivoiriennes, c'est-à-dire le bété, l'atié, le dioula. Même en wolof, on chante. On veut surtout que les gens retiennent que nous sommes de jeunes musiciens. On adore notre métier.
Je vais aller à la diva.
Bon, c'est Mélissa Bailly, mais on m'appelle tous la diva.
Est-ce que c'est une influence capverdienne ou quoi?
Oh non, je suis ivoirienne, je suis guérée. C'est un nom qui m'a été donné par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'appelle La Diva.
Est-ce que vous pensez faire votre chemin?
Oui, absolument oui. Nous ne faisons pas la musique juste pour gagner le pain, non. Nous le faisons parce que c'est notre passion. Quand c'est la passion, ben, ça t'emporte là où il veut, quoi.
Spontanément, je vous demande une petite chanson.
D'accord, on va chanter quand même. Tadjibone, c'est bon? Parce que le journaliste qui est là, il est sénégalais apparemment. Donc...
Tadjibone, celui qui l'a chanté, qui s'appelle Ismaël Lo, oui. Il vient de la même ville que moi.
Ah bon, vous voyez qu'on tombe bien, alors c'est bien de chanter cette chanson en même temps. Pour surtout saluer tous les Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire et aussi tous les Ivoiriens qui vivent au Sénégal. Thank you.
Voilà, Abidjan by night, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Voilà, après Idriss Fall, qui n'est pas du tout fatigué, nous retrouvons Timothée Donangma, et lui un peu fatigué apparemment. Salut Timothée.
Bonsoir Gabi.
Timothée avec l'actualité sportive, nouveau classement FIFA et l'Algérie qui fait un bon.
Et oui Gabi, l'Algérie recueille ainsi les fruits de son bon début dans les éliminatoires de la CAN 2015. Mise à jour ce jeudi, le classement mondial FIFA voit les Fenech rentrer dans le top 20 mondial. L'Algérie est donc 20e et reste la première nation africaine devant les éléphants de Côte d'Ivoire, 22e, et la Tunisie, 31e, la Tunisie qui avance de 11 places pour intégrer le podium continental. Le Ghana, 33e africain, voit le Sénégal, 36e, revenir sur ses talons. Alors que le Nigeria, champion d'Afrique, mal en point dans les qualifications, cède du terrain, 37e, le Nigeria qui a perdu 4 places.
Et Haïti, n'en parlons pas. On reparle, Timothée, des montres luxueuses, embarrassantes, offertes aux officiels de la FIFA lors de la Coupe du Monde.
La chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA a à ce sujet donné jusqu'au 24 octobre à plusieurs officiels pour restituer des montres de luxe offertes par la Fédération brésilienne. L'instance brésilienne avait distribué à l'époque un sac contenant notamment des montres de la marque Parmigiani, un de ses sponsors, d'une valeur de 25 000 francs suisses, environ 20 700 euros, aux 28 membres du comité exécutif de la FIFA, aux représentants des 32 équipes qualifiées pour le Mondial 2014 au Brésil, ainsi qu'aux 10 membres de la Confédération sud-américaine, selon le communiqué de la FIFA qui précise que les dons d'objets ayant plus qu'une valeur symbolique ou modique sont interdits par son code éthique.
En boxe, défi du Philippin Manny Pacquiao à l'Américain Floyd Mayweather.
Et oui, dans une interview à l'AFP, Pacquiao a en effet invité Mayweather à l'affronter au lieu, a-t-il dit, de fixer des conditions qui pourraient empêcher la tenue de ce match. Les négociations ont souvent achoppé sur l'identité de l'organisateur et du diffuseur. En attendant, Pacquiao s'apprête à défendre son titre mondial WBO des welter contre un autre Américain, Chris Algieri, au mois de novembre à Macao. Samedi dernier, Mayweather a infligé une seconde défaite en 4 mois à Marcos Maidana.
Merci Timothée.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Kofi Olomide, Une vie après la scène. Son prochain album, avant la fin de cette année, sera le dernier. À 57 ans, le Congolais Kofi Olomide met un terme à sa carrière pour se consacrer à la production musicale, aux affaires et peut-être à la politique. Un ancien morceau de Kofi Olomide, Noblesse oblige.
Kofi Olomide, sacré artiste africain de la décennie en 2005 au Kora Awards, les trophées de la musique africaine, veut désormais se consacrer à la promotion de jeunes talents, Roger.
Oui, comme l'artiste Fabregas, qui est produit actuellement par la maison Kofi Central. Kofi a aussi produit et composé l'album solo de Cindy Lecoeur, je rappelle, l'étoile montante de Quartier Latin International, son orchestre, sorti en juin 2013.
Kofi Olomide, Noblesse oblige. Merci Roger.
De rien Morgane, ciao ciao.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel. Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Michel Joseph a dirigé la mise en onde.
Cédric Franklin était à la console technique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil à la présentation.
Laissez-nous vos messages sur Facebook. Restez à l'écoute de Washington Forum. Bonsoir. Yeah.